Maximilien Kolb, le serviteur audacieux de Marie. Voici une conférence du père Stéphane Faure, prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon. Intervention enregistrée lors du festival marial de Notre-Dame-du-Lot en 2022.
Bienvenue à cet atelier consacré à mon saint préféré, Saint Maximilien Kolb, lui que Jean-Paul II a désigné comme le patron de nos temps difficiles. Alors c'est vrai que Jean-Paul II prononce cette parole vers toute fin du XXe siècle. Patron de nos temps difficiles et le signe de notre époque. Maximilien Kolb, le signe de notre époque. Alors, d'après vous, pourquoi Maximilien Kolb est-il le patron de nos temps difficiles? Pourquoi Maximilien Kolb est-il le signe de notre époque? Ok, on a un premier élément, c'est Marie qui va vaincre. Et justement, lui, il était à fond, quoi, avec Marie. À mon sens, on peut dire qu'il est patron de notre époque, signe de notre époque, parce que il s'est montré effectivement un apôtre d'un zèle ahurissant pour l'évangélisation, extraordinaire. Et ça, c'est bien quelque chose qui caractérise le moment d'Église, le moment de l'Église que nous traversons. L'Église, depuis des décennies, est lancée dans un effort considérable de nouvelle évangélisation, de conversion pastorale. Alors, selon que vous faites référence à Jean-Paul II, Benoît XVI, François, eh bien, les formules sont un petit peu différentes, mais enfin, c'est quand même le même effort, le même mouvement pour rejoindre un monde qui sait maintenant, on peut le dire, c'est pas qui se déchristianise, mais qui sait déchristianiser. Donc, un monde qui est de nouveau un monde avant Jésus-Christ. Et il a fait cet effort d'évangélisation colossale en étant vraiment une figure mariale très très forte, en vivant très intensément sa dévotion mariale, son lien avec la Vierge. Et ça, c'est vraiment caractéristique de la période de l'Église qui s'approche de la fin de l'histoire. Période qui est marquée, qui sera marquée par des persécutions très violentes contre les chrétiens, une christianophobie ultra véhémente et sanglante aussi, pas toujours, mais aussi. Et Maximilien Kolb porte cette caractéristique des chrétiens qui vivent et meurent dans des états totalitaires qui exécutent ce qui est chrétien et qui ravagent ce qui est foncièrement humain. Donc par la sainteté de sa vie, par la très grande sainteté de sa vie, Maximilien Kolb a fait briller la lumière de Dieu dans une époque pleine d'ombre et il l'a fait avec Marie. Et ça marche si bien, son truc, qu'il a réussi à piétiner le nazisme. Alors, vous allez me dire, bah oui et non, parce que le nazisme n'a pas disparu avec la mort de Maximilien Kolb. Non, c'est vrai, mais on peut quand même dire qu'il a remporté la victoire sur le nazisme. Parce que l'acte pour lequel il est le plus connu, qui est le dernier acte, l'un des derniers actes de sa vie, le sacrifice suprême sur lequel on viendra, il le fait dans un camp nazi dont l'œuvre, dont l'obsession est de détruire tout ce qui est humain, d'anéantir l'homme, de ravager ce qu'il y a de beau, de grand en l'homme, de tuer l'amour en fait. Et Maximilien Kolb a aimé jusqu'à l'extrême, donc il a été plus fort que le nazisme qui s'efforçait de toute sa haine à rendre l'amour impossible. Et je ne sais pas si vous avez beaucoup creusé, étudié comment la vie était dans les camps. Moi, j'ai fait ça dans les camps de concentration. Les détenus, ils étaient pas du tout charitables entre eux. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement privés, tellement brimés que c'était le triomphe de l'égoïsme. Vraiment, l'homme réduit à a eu une forme d'animalité où pour une miette de pain, vous étiez prêt à vous étriper. Et lui, non seulement il n'étripe personne, mais il donne sa vie. Donc il a été plus fort que le nazisme. Il a posé l'acte d'amour le plus grand qui soit dans un lieu de haine. Il a donné sa vie. Et l'horreur du nazisme n'a pas été assez forte pour pourrir le cœur de ce grand saint. Voilà pourquoi Maximilien Kolb est peut-être considéré comme le patron de tout un siècle, le signe de cette époque du XXe siècle. Mais nous, on a changé de siècle. Alors, est-il patron de notre époque ? Peut-il être un patron pour nous aussi ? Ben, évidemment ! Évidemment, et pas seulement parce que nous aimons la Sainte Vierge et parce que c'est un bon guide pour aimer la Sainte Vierge de plus en plus profondément, de plus en plus intimement, mais aussi parce que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, vraiment dans une période, dans une époque qui doit, où l'Église doit s'engager, les chrétiens doivent s'engager dans le témoignage pour Jésus, une évangélisation, une première évangélisation en fait. Et puis parce que nous devons faire cette chose-là dans un contexte extrêmement hostile. Nous faisons face à des idéologies mensongères, destructrices. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur américain Rod Dreher, je ne sais pas comment on dit, hein, mais qui a écrit un livre sur le Paris bénédictin, comment vivre dans une société qui n'est plus chrétienne, et puis résister aux mensonges. Comment résister aux mensonges, c'est un ouvrage sur le totalitarisme mou, sur la dictature de la pensée unique dans les États occidentaux. Il parle effectivement de totalitarisme mou. Et ça revient un peu à ce que François dit régulièrement. Hein. Il a parlé plusieurs fois de colonisation idéologique. Il a parlé de persécution en gants blancs, de nazisme en gants blancs. Il a fustigé à bien des reprises la persécution antichrétienne, les privations de liberté religieuse dans les États dits démocratiques. Quand même, on est dans un temps qui est très sombre. Et alors, figurez-vous que là, vous avez vraiment beaucoup de chance d'être là parce que je vais vous lire une citation de Benoît XVI qui est assez ahurissante. C'est dans l'entretien qu'il a eu avec son grand biographe Peter Sewald, qui a publié une biographie sur lui en deux tomes, un gros truc, et qui se termine dans l'édition italienne et allemande, me semble-t-il, pas dans l'édition française, par un petit entretien comme ça. Et dans cet entretien, Benoît XVI dit ceci, écoutez bien, la véritable menace pour l'Église vient de la dictature universelle d'idéologie apparemment humaniste. Les contredire conduit à l'exclusion du consensus de base de la société. La société moderne entend formuler un credo antichrétien. Ceux qui s'y opposent sont punis par l'excommunication sociale. Avoir peur de cette puissance spirituelle de l'antéchrist n'est que trop naturel, et il est vraiment nécessaire que les prières de l'Église mondiale viennent à la rescousse pour y résister. C'est hallucinant parce que personne n'a relayé cet entretien de Benoît XVI, sauf les médias non chrétiens, les médias, parce que ils prenaient des exemples dans cet entretien de choses portées par cette culture antichrétienne, des articles de ce credo antichrétien. Évidemment, il y avait des choses qui ne sont pas du tout en vogue. Et donc, les journaux ont titré « Benoît XVI compare telle chose avec le règne de l'antéchrist », etc. Donc, dans les médias, il y a eu quelque chose sur ce sujet-là. Dans l'Église, vous avez entendu des évêques, vous avez entendu des prêtres relayer ce genre de propos, pourtant d'une gravité énorme. Non. Eh bien, Saint Maximilien Kolb, qui était un chevalier, il fait en sorte qu'on soit lucide sur la situation pour qu'on soit vraiment sur le champ de bataille, quoi. Aguerri, averti. Maximilien Kolb est un héros et il nous montre l'exemple. Il nous indique un chemin et propose un idéal pour vaincre, pour devenir saint et de grand saint, comme il disait, hein. Être un saint et un très grand saint. Voilà comment on trouve ça dans ses notes. Et le chemin, l'idéal qu'il propose, on peut le formuler simplement ainsi, devenir chevalier de l'Immaculé. Alors vous savez que dès l'enfance, sa petite enfance, Maximilien Kolb a été très impacté par l'amour de la Sainte Vierge. D'une part, sa maman lui a appris à aimer la Sainte Vierge, mais il en a fait l'expérience personnelle. Hein. On va revenir sur cette histoire des deux couronnes. Vous voyez que Maximilien Kolb a une dévotion mariale qui est l'impact de l'amour de Marie sur son cœur. Et c'est ça, en définitive, et c'est peut-être la chose la plus importante que j'ai à vous dire, c'est que la vraie dévotion mariale, la dévotion mariale, c'est l'impact de l'amour de Marie sur notre cœur. C'est le résultat de l'expérience que nous faisons de l'amour qu'elle a pour nous. Et c'est un amour si grand, eh bien, qu'on lui offre un grand amour en retour. Et nous lui faisons le cadeau de tout nous-mêmes. Ce n'est pas de l'orgueil, dit Maximilien, que de vouloir être saint autant qu'il est possible et sanctifier le plus grand nombre d'âmes en se confiant uniquement à Dieu à travers l'Immaculé. Qui veut être un très grand saint ici? Une très grande sainte? Et qui veut sanctifier le plus grand nombre d'âmes possible? Ben voilà. Alors pour cadrer un peu le parcours du bonhomme, quelques dates. Il est né le 8 janvier 1894 en Pologne. Et il est mort le 14 août 1941 à Auschwitz, piqué comme un animal avec une piqûre de phénol. Et il a été brûlé le lendemain dans un des fours crématoires d'Auschwitz le 15 août. C'est quand même bien fait, hein. Il est béatifié en 1971 et canonisé en 1982. Alors les deux événements les plus connus de sa vie, eh bien le premier survient lorsqu'il a environ 10 ans. Donc je suis désolé pour ceux qui connaissent bien ce moment-là, mais il y en a quelques-uns qui connaissent peut-être moins. Donc il s'est fait gronder par sa mère. Donc c'est sa mère qui raconte après sa mort ce qui s'est passé. Il s'est fait gronder par sa mère. Et bah, évidemment, il est assez triste, il pleure et il va prier devant une statue de la Sainte Vierge. Et voilà que sa mère nous rapporte. « Maman, quand tu m'as grondé, j'ai beaucoup prié la Vierge de me dire ce que je deviendrais. » Il a eu peur un peu. Il a dit « Oh là, je prends un mauvais tournant là. » Me trouvant ensuite à l'église, je la priais de nouveau, alors elle m'est apparue. Tenant dans ses mains deux couronnes, une blanche et une rouge. Elle me regarda avec tendresse et me demanda si je voulais ces deux couronnes. La blanche signifiait la persévérance dans la pureté et la rouge le martyre. Je répondis que je les acceptais, alors elle me regarda avec douceur et disparut. Voilà, tout est joué d'emblée. Voilà, ce petit garçon de 10 ans apprend qu'il va devenir saint et martyr. Et tout ça va lui donner une grande confiance, une grande stabilité dans toutes les épreuves qu'il va traverser, parce que il s'en remettra toujours avec une confiance invincible, absolue, dans la providence de Dieu et dans l'amour de l'Immaculé. Le deuxième événement survient lorsqu'il a environ 50 ans. Hein, il se sacrifie. Voilà, c'est ça qui fait de Maximilien Kolb l'homme le plus célèbre qu'on sait. Il se sacrifie pour ce père de famille, tiré au sort pour mourir avec 9 autres, en représailles d'une évasion qui vient d'avoir lieu. La scène est bouleversante, elle a été racontée par des témoins aussi après la mort de, de Maximilien, des témoins qui ont déposé au procès de, qui ont prêté serment au procès de béatification. Donc une des personnes tirées au sort se met à pleurer et voilà en pensant à sa famille, à sa femme, ses enfants. Alors je vais lire le récit hein, qu'on en a. Le père Maximilien sortit du rang et ôtant son béret se mit au garde-à-vous devant le commandant, devant le SS du camp, un des SS du camp. Surpris, celui s'adressa au père Maximilien et dit « Qu'est-ce qu'il veut ce cochon de Polonais ?» Ils étaient toujours très très délicats et fins dans leur formule. Le père Maximilien désigna de sa main le monsieur en question et répondit « Je suis un prêtre catholique polonais, je suis vieux, je veux prendre sa place parce qu'il a femme et enfant. » Et il est exaucé, ce qui est surprenant aussi. Voilà, le SS se range à la proposition de Maximilien Kolb. Et il va être emmené au bunker de la faim, là où on laissait mourir les gens de faim. Et il va être là pendant 15 jours à peu près. Hein, il est amené le 30 juillet et il est piqué le 14 août parce qu'il ne meurt pas. Les autres sont morts, mais lui ne meurt pas. Il a fait de ce lieu de mort un lieu de prière. On les entend chanter des louanges, on les entend prier le chapelet. Et lui ne meurt pas. On sait tous les autres sont morts dans des conditions épouvantables. Il y avait des seaux dans lesquels, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi il leur mettait des seaux, mais c'était des seaux dans lesquels ils pouvaient faire leurs excréments, leurs besoins. Et les seaux ont été retrouvés vides. Donc, ce qui est pressenti, c'est qu'en fait, il mangeait, il buvait leurs propres excréments tellement ils étaient dévorés par la faim. Et Maximilien Kolb, le 14 août, reçoit la visite d'un nazi qui va le piquer, l'achever, qui ne meurt pas. Et le regard de Maximilien Kolb est si perçant que ce nazi lui demandera de baisser les yeux. Quoi. Le SS sera incapable de soutenir le regard de cet homme qui meurt de faim depuis 15 jours et qui ne meurt pas, qui a donné sa vie par amour. Alors, entre la vision de la Vierge qui remet deux couronnes à Maximilien Kolb et Maximilien Kolb qui donne sa vie et qui ainsi montre qu'il avait bien ses deux couronnes sur sa tête, celle de la sainteté et du martyr, que s'est-il passé? Une quarantaine d'années, une vie d'aventurier, portée par un idéal chevaleresque, un idéal marial, un amour pour Marie sans limite, qu'il admire comme l'Immaculée. C'est vraiment le nom, hein, l'appellation qu'il emploie. Le dogme de l'Immaculée Conception a été promulgué quelques décennies avant sa naissance. La Vierge Marie est apparue à Lourdes quelques décennies avant sa naissance en disant que elle est l'Immaculée Conception, et ce sera quelque chose de très fort pour Maximilien, qui considère que à Lourdes, Marie donne son nom comme Dieu a donné son nom au buisson ardent, justement, en disant « Je suis celui qui est ». Donc c'était pour lui la révélation du nom intime de Marie. Elle est l'Immaculée Conception, elle est pleine, totalement remplie de l'Esprit Saint. Alors, on peut pas tout dire de la vie de Maximilien Kolb. J'ai relevé quelques éléments qui me paraissent stimulants pour nous. D'abord, quelque chose qui va avoir lieu en octobre 1917 à Rome. Maximilien Kolb est à Rome, il est devenu franciscain, il est franciscain conventuel. C'est un jeune frère. Il est séminariste, il étudie à la faculté de théologie. Il va être témoin de manifestations ferventes, si je puis dire, tapageuses, antichrétiennes, contre Jésus, contre l'Église, contre la personne du pape, des manifestations orchestrées, portées par la franc-maçonnerie. Le mot est lâché. Et il va pas du tout aimer ça. Et avec ce spectacle sous les yeux, et inspiré par une conférence qu'il a entendu sur Marie un peu à la même période, il va avec quelques confrères avoir l'idée de fonder une milice, hein, la milice de l'Immaculée. Alors, de quoi s'agit-il? Bah, c'est un mouvement spirituel, en fait. Une chevalerie spirituelle, mariale, qui se veut être l'expression d'une consécration à la Vierge en vue de la sainteté personnelle et pour remédier aux forces du mal, visibles ou occultes, qui sont orientées contre Jésus et contre l'Église. Son projet vise à endiguer le flot d'impiété, d'arrêter les mouvements hostiles à l'Église. Voilà comment naît la milice de l'Immaculée. Alors il rédige sur un papier, voilà, comme ceci là, les statuts de la milice de l'Immaculée. Alors c'est rédigé en latin le 16 octobre 1917. Je sais pas si vous saisissez qu'en octobre 1917, il s'est passé aussi un truc vachement important. Fatima, ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est à peu près à la même époque. Donc, c'est il y a un contexte, il y a un contexte porteur, voilà, le mal qui se déploie et la Vierge Marie qui intervient, soit directement, soit à travers ses chevaliers, quoi, hein, ses amis. Alors je vous lis en quoi consiste cette milice de l'Immaculée. C'est quelque chose de très simple. Elle existe toujours. Alors je lis le statut, puis après j'explique un peu comment faire pour l'intégrer plus formellement. Mission de l'Immaculée. Ça commence par une citation du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Elle écrasera la tête. Par toi seul ont été vaincues toutes les hérésies dans le monde entier. Donc trois parties. Première partie, le but. Deuxième partie, les conditions. Troisième partie, les moyens. Alors, le but, chercher la conversion des pécheurs, hérétiques, schismatiques, juifs, etc., et particulièrement des francs-maçons, et la sanctification de tous sous la direction et par l'intermédiaire de la bienheureuse Vierge Marie Immaculée. Donc, conversion de tous et sanctification de tous. Conditions. Premièrement, offrande de soi-même à la bienheureuse Vierge Marie Immaculée comme instrument dans ses mains. Immaculée. Deuxièmement, porter la médaille miraculeuse. Donc voilà, le but, la conversion et la sanctification, les conditions, l'offrande de soi-même à la Vierge Marie, et deuxième condition, porter la médaille miraculeuse. Grand 3, les moyens. Deux moyens. Si possible, une fois par jour, réciter à l'Immaculée la prière suivante. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours à vous et plus particulièrement pour les francs-maçons. Deuxièmement, tout moyen légitime selon les possibilités dans les divers états, conditions, occasions. Ceci est laissé au zèle et à la prudence de chacun. En particulier et spécialement la médaille miraculeuse. Donc, diffuser la médaille miraculeuse. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très simple. Peut-être le point compliqué, c'est l'offrande totale de soi-même à. C'est là que on a toujours des progrès à faire. Mais sinon, porter la médaille, dire la prière au Marie conçue sans péché avec la spéciale dédicace au franc-mac. Et puis, essayer de rayonner, d'avoir un apostolat marial le plus largement possible, en particulier en distribuant la médaille. Tout ça pour convertir et sanctifier le plus de gens possible, en particulier les francs-maçons. Eux aussi sont nommés particulièrement. Hein. Je passe parce que Maximilien Kolb dit qu'il y a plusieurs... Une fois qu'il a dit ça, il dit qu'il y a plusieurs degrés. Donc les degrés, c'est... premier degré, chacun le fait dans son coin. Deuxième degré, entre personnes qui sont animées par cet idéal, on se retrouve entre nous et puis on on se stimule, on prie ensemble. Et puis troisième degré, eh bien, on participe à des organisations de pour diffuser à fond l'idéal de la milice, notamment la consécration sans limite de soi-même à l'Immaculée. Alors, il est possible de faire une démarche officielle d'inscription dans la milice de l'Immaculée. Malheureusement, certains, vous savez, il est toujours possible de penser qu'on est soi-même plus fidèle que les autres. Donc, en fait, désormais, il y a plusieurs milices. Il y a la milice en France qui a pris l'appellation mission de l'Immaculée. Je crois que c'était parce qu'à l'époque, ils avaient peur que le mot milice n'ait une connotation fasciste. Alors, ils se sont dit, oh là là, n'appelons surtout pas ça milice, appelons ça la mission. Donc ça, c'est, vous pouvez trouver le site. Il est assez chouette. Il est très chouette, même le site de la mission de l'Immaculée. C'est missiondelimmaculée.org qui est directement lié au site des franciscains, du couvent franciscain de Lourdes. Et là, vous avez toute une présentation de l'idéal de Maximilien Kolb, la chevalerie de l'Immaculée, la mission. Et puis, on vous propose de faire une démarche pour vous consacrer à la Vierge. Alors, c'est plus fouillé que ce que propose tout simplement Maximilien Kolb. Voilà. Et puis, sinon, il y a un autre site. Alors, c'est la milicia immaculatée. Alors, ceux-là, ils se veulent de la stricte observance. Donc, je pense qu'ils sont un peu dans la mouvance traditionnaliste. Et vous pouvez envoyer un papier où vous inscrivez, voilà. Et vous avez votre numéro dans la milice. En 1917, il est à Rome et il voit que la franc-maçonnerie est une organisation qui assiste à des célébrations franc-maçonniques et il perçoit qu'il y a vraiment une volonté de cette institution occulte de déconstruire la société chrétienne. Et donc, la franc-maçonnerie, il sait qu'elle est puissante, qu'elle agit et il veut la détruire. Il veut la renverser par une armée, une chevalerie une milice qui va lutter par des moyens spirituels contre ça. Après, je n'ai pas vu qu'il soit revenu dans ses enseignements. Il a beaucoup enseigné, hein, et on a énormément de notes de ses enseignements qui étaient prises par les frères de ses couvents. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il a travaillé avec un acharnement à diffuser la milice, sans en changer les termes. A priori, ça restait une idée, une ligne directrice. Et est-ce que c'est encore valable aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que nous assistons à une entreprise manifestement bien organisée de déconstruction de l'ordre chrétien. Vraiment la cancel culture, une forme de marxisme culturel, le wokisme, tout ça, c'est vraiment casser ce que les chrétiens, ce que l'Église a construit pendant 2000 ans de christianisme, la civilisation chrétienne, la culture chrétienne. Voilà, on est en train de la remplacer par autre chose. Et les conséquences sont catastrophiques, évidemment. Et derrière, oui, n'ayons pas peur de le dire, il y a la franc-maçonnerie, et je le tiens de quelqu'un qui n'est pas du tout un illuminé, hein, c'était à Rome. C'était l'évêque français qui était président du conseil pontifical pour la famille. C'était à l'époque de la mise en place du mariage pour tous en France. Et il nous a bien expliqué comment ces choses-là se mettaient en œuvre. Donc, c'était préparé dans des cabinets de juristes aux États-Unis, diffusé, testé dans les pays d'Amérique du Sud et après propagé dans les pays d'Europe. Et tout ça était l'œuvre de la franc-maçonnerie. Jean-Paul II dira « L'appartenance à la milice signifie une consécration totale au règne de Dieu, au salut des âmes, grâce à l'intermédiaire de Marie Immaculée. » Donc, octobre 1917, fondation de la milice de l'Immaculée. Là, alors la question c'était, il parle de chevalier, et donc c'est un côté plus viril, masculin. Est-ce que à la base son projet il est pour aussi pour les femmes? Alors son projet il est pour tout le monde. Et c'est vrai que le terme de chevalier en fait est plus rattaché à ce à quoi j'arrive maintenant, la création d'un journal, d'une revue dont le premier numéro paraît en janvier 1922. Qui s'appelle Le Chevalier de l'Immaculée. C'est le titre de la revue. Cette revue se veut un moyen d'évangélisation et c'est vraiment le début de la presse à très gros régime. Donc on a le Chevalier de l'Immaculée va réellement être l'une des revues de la meilleure facture de l'époque et tirée à un nombre d'exemplaires tout à fait formidable, à la fois en Pologne, à travers laquelle il inonde l'Europe, mais voilà, et au Japon, comme on va le voir. Chevalier de l'Immaculée, bon, c'est un moyen d'évangélisation qui correspond, voilà, il s'est emparé des moyens les plus sophistiqués de son temps, et les choses vont prendre une ampleur considérable. Lorsqu'à partir de 1929, à ce moment-là, il est déjà prêtre, il a été ordonné prêtre en avril 1928 à Rome. En 1929, il fonde en Pologne Niepokalanov. Niepokalanov, ça veut dire cité de l'Immaculée. C'est un centre spirituel énorme de sensibilité franciscaine et donc mariale. Ça, ce sera quelque chose de très important pour Maximilien Kolbe, parce qu'il est fils de Saint François. Il a fait les vœux de pauvreté, chasteté, obéissance, et il veut en plus que l'ordre entier se consacre à l'Immaculée, et il va y avoir une dispute théologique entre ceux qui disent, mais en fait, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose à notre, il faut pas ajouter quelque chose à notre identité franciscaine, et ceux qui, comme lui, diront, mais non! C'est justement l'identité franciscaine que d'être consacré à l'Immaculée. Voilà, ça va être un centre franciscain avec doublé d'une maison d'édition. Maison d'édition où l'on a les machines les plus perfectionnées qui soient pour l'apostolat, tandis que les frères eux-mêmes vivent dans une pauvreté ahurissante. Faut imaginer qu'ils vivent dans des baraquements en bois. En Pologne, la température n'est pas la même ici. Des baraques en bois, sans chauffage et sans fenêtres. Été comme hiver. Vraiment une très grande pauvreté volontaire. Donc c'est vraiment c'est une armée. Au plus nombreux, ils seront environ 800 frères. 800 frères. Comment se fait-il qu'ils soient si nombreux? Mais parce que Maximilien Kolbe commence déjà à avoir une aura extraordinaire, et les jeunes frères veulent le suivre. Ça rejoint l'homélie du père Pierre tout à l'heure. On fait le détour pour voir la lumière. On vient de loin. On vient de loin pour se mettre à l'école de Maximilien, et il va avoir une paternité spirituelle sur toute cette légion de jeunes frères, parfois très jeunes. À l'époque, on peut entrer très jeune dans les couvents franciscains. C'était son cas d'ailleurs, il est entré très tôt. Niepokalanov. Donc de là, on va éditer des milliers, tirer à des milliers d'exemplaires cette revue. Au début des années 30, eh bien, il fonde la même chose, mais à l'autre bout du monde, au Japon. Donc 1930, de Niepokalanov, faut y aller au Japon. Alors, il y a eu plusieurs allers-retours pour trouver le terrain, le moyen. Il s'est rendu en Inde aussi pour diffuser le Chevalier de l'Immaculée dans ce pays-là. Il s'est embarqué pour aller au Japon. Il a pris le bateau à Marseille. Maximilien Kolbe a fait le voyage en France. Il est allé à Lourdes, il est allé à la rue du Bac, et puis il est allé à Marseille pour gagner le Japon. Et ils font donc une autre cité mariale, un couvent, une maison d'édition au Japon. Et alors ça, c'est, et ça, il faut le savoir parce que c'est quand même énorme. La maison, il l'installe à Nagasaki. Et alors, le terrain est un terrain qu'il peut acquérir pour pas très cher, parce que c'est un terrain dont personne ne veut parce qu'il est très mal situé. Il est situé en pente, mais vraiment une pente très raide. Ce qui fait que quand la bombe va tomber sur Nagasaki et éclater, exploser, eh bien le souffle de l'explosion va monter comme ça, mais ne va pas redescendre. Et c'est ainsi que la cité de l'Immaculée ne sera pas détruite, et que nous avons là quelque chose de prophétique, un signe qui nous est donné, que oui, l'Immaculée protège des flammes de l'enfer. Hein. C'est-à-dire que quand vraiment Marie, quand la folie meurtrière des hommes qui est inspirée par Satan vient tout ravager, eh bien, Marie nous protège, pas forcément de la mort, mais de la mort spirituelle. Oui, Marie nous garde. Elle est, elle avait son manteau, hein, sa présence sur la cité de Nagasaki, sur la cité de l'Immaculée à Nagasaki. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire au Japon? Alors, c'était un visionnaire, notre ami Maximilien Kolb. Il avait des idées comme ça. C'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. Il avait un côté ingénieur. Il avait fait des plans pour une navette spatiale. Enfin, vraiment, il n'avait pas de limite dans son esprit. Et le Japon, ça représente le bout du monde. Il veut aller évangéliser au bout du monde. Alors, voilà comment il décrit un peu son aspiration profonde. Rayonner sur notre milieu. Conquérir les âmes à l'Immaculée, de telle sorte qu'en sa présence s'ouvrent aussi les cœurs de nos proches, afin qu'elle étende sa souveraineté sur les cœurs de tous ceux qui vivent en n'importe quel endroit de la terre, sans égard à la diversité des races, des nationalités, des langues, et pareillement sur tous les cœurs de ceux qui vivront à n'importe quel moment de l'histoire, jusqu'à la fin du monde. Voilà notre idéal. Et quand cela sera-t-il, ô notre maman immaculée, que tu deviendras la reine de tous et de chaque âme? En fait, s'il a ce désir de répandre la connaissance de Marie immaculée dans le monde entier, c'est qu'il est convaincu du pouvoir de Marie pour convertir et sanctifier. Alors là, je voudrais vous citer quelques-unes de ces... Il n'y a aucun doute que finalement l'Immaculée obtiendra toujours la victoire. Là où est l'Immaculée, là aussi est le serpent, mais sous ses pieds. Là où elle entre, elle porte avec elle toute la Sainte Trinité. Je souhaite que chaque jour, chaque moment, vous vous approchiez davantage de l'Immaculée, que vous la connaissiez de mieux en mieux, que vous l'aimiez toujours davantage. Amour sans limite pour l'Immaculée. En définitive, il nous appelle à nous consacrer à elle, c'est-à-dire à nous donner à la Vierge. Consécration totale, consécration sans aucune limite, ce sont les termes qu'il emploie. Confions-nous totalement à l'Immaculée et consacrons-nous à elle sans limite, et vite, très vite, nous deviendrons des saints. Donation de tout nous-mêmes à l'Immaculée, en nous donnant à l'Immaculée, nous devenons quasi immaculés. Alors, la différence, c'est que Marie, elle est immaculée dès la conception. Nous, il faut devenir. Alors, on ne sera pas à la pleine de grâce, hein, c'est sûr, mais c'est immaculé. Voilà, c'est une manière de parler d'une très grande sainteté. Hein. Il dit, plus nous sommes proches de l'immaculé, plus nous devenons, la sainteté en nous devient resplendissante. Nous sommes la propriété de l'immaculé. Il faut conquérir l'univers et chaque âme en particulier, maintenant et à l'avenir, jusqu'à la fin du monde, à l'immaculé. Et par elle, au cœur sacré de Jésus. cette flamme, ce feu, hein, ce feu de Jésus pour Marie en lui, hein, eh bien, il est né au contact de cet amour maternel de la Vierge. Je vous dis à tous et à chacun en particulier, en son nom, faites attention, en son nom, elle vous aime, chacun de vous, elle vous aime beaucoup, elle vous aime en tout moment, sans aucune exception. Et touché, rejoint par cet amour de sa mère, Marie, eh bien, Maximilien Kolb, il se donne. Cette très belle formule de Jean-Paul II dans la lettre, l'encyclique Redemptoris Mater, l'offrande de soi est la réponse à l'amour d'une personne, et en particulier à l'amour de la mère. Nous nous consacrons en réponse à l'amour que Marie, cette personne, nous porte comme elle est notre mère. Donc Maximilien nous invite à nous approcher toujours plus d'elle, à vivre en contact avec elle, à nous laisser conduire par elle, à nous abandonner à elle. Il faut la laisser vivre et agir en nous. Dans la prière de consécration que Maximilien Kolb a rédigée, et l'un des points sur lesquels il insiste, pour dire que sa prière à lui, elle est quand même... C'est qu'il dit « Reçois-moi comme ton bien et ta propriété ». C'est-à-dire qu'il se donne à Marie comme sa chose. Vraiment, il renonce à toute prétention devant Marie. « Je suis ton bien, je suis ta propriété. Dispose de moi, même pas comme un esclave, ce que Louis-Marie va proposer. Même pas comme un esclave, comme une chose dont tu peux disposer à ta guise pour le triomphe. Alors, il parle pas encore du triomphe du cœur immaculé de Marie, il a pas manifestement pas eu vent de ce qui s'était passé à Fatima, mais pour que s'accomplisse ce qui a été dit de toi, la femme écrasera la tête du serpent et aussi toi seul vaincras les hérésies dans le monde entier. Et dans cette période de consécration, il dit « Agis en moi selon ta volonté, en mon âme et mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité. » Je pense que s'il fallait dire une seule prière chaque jour, il faudrait dire celle-là. J'ai souvent été vraiment profondément, intimement convaincu de ça. Parce qu'à partir du moment où nous sommes la propriété de l'Immaculée, à partir du moment où nous lui demandons d'agir en nous, mais alors tout devient possible. Tout devient possible. Il est au Japon, il rentre en Pologne. Et là, ça chauffe en Pologne hein, maintenant. Et il continue à évangéliser, à publier son journal, tout ça, avec toute son armée de frères. Et il est arrêté une première fois en 1939, puis relâché. Et le 17 février 1941, il est arrêté une seconde fois, emprisonné à Varsovie, la prison de Varsovie, puis déporté à Auschwitz le 28 mai 1941. Donc je signale, hein, il n'est pas arrêté parce qu'il est juif, hein, il est arrêté parce qu'il est catholique et polonais, et prêtre, ce qui fait trois crimes majeurs aux yeux des nazis. Et il est emmené à Auschwitz. Donc il arrive à Auschwitz le 28 mai 1941 et il meurt au mois d'août suivant. Donc il a vécu 2 mois en dehors, enfin il a vécu 2 mois et demi à Auschwitz, et sachant que la dernière quinzaine se passe dans le bunker de la faim. Et alors là, le sacrifice suprême à la fin de sa vie à Auschwitz, c'est l'achèvement, le couronnement d'un témoignage incroyable de charité à Auschwitz pendant 2 mois et demi. C'est bouleversant. Maximilien Kolb, à l'infirmerie, on a des scènes, je pense que ça fait partie, on peut dire, hein, parmi les plus belles scènes de l'histoire de la sainteté. Je vous lis ça parce que, les plus belles scènes parce que ça se passe dans un contexte épouvantable. À l'infirmerie du camp, voilà ce que quelqu'un va raconter sur la sur ce qui se passe à l'infirmerie. Ah non, ils sont plus à l'infirmerie. Il est ramené dans son bloc, dans sa cellule, enfin dans son dortoir, disons, avec les autres détenus. Et voici Maximilien Kolb à Auschwitz. Voilà, ça nous parle. C'est lui dans toute sa splendeur. À peu près à la fin de juillet 1941, je rencontrais de nouveau le père Maximilien au bloc 20. Nous étions malades tous les deux. Il occupait le lit d'en bas, à côté de la porte, et moi j'étais en face. Je fus informé de la présence du père Kolb par Jean Pozarzyski. La nuit, je m'approchais du lit du père Kolb en rampant sur le sol, évidemment pour ne pas se faire voir, comme beaucoup d'autres le faisaient. Alors, imaginez la scène, Maximilien Kolb dans son lit, blessé, perclus de douleur, etc. Et les gens qui y rampent pour venir jusqu'à son lit pour aller chercher quoi ? La consolation de cet être de lumière et d'amour en qui il n'y a aucune haine, aucune haine. Nous nous sommes salués avec émotion, nous avons échangé quelques mots à propos de l'horreur, l'horrible four crématoire. Parce que Maximilien Kolb faisait partie des gens qui étaient obligés d'amener les cadavres au four, donc il les portait. Et il avait souvent affaire à des gens, des co-détenus qui étaient totalement désespérés de cette horreur. Et il les encourageait, il disait « Allez, on y va ». Et il disait des « Je vous salue Marie » en portant les cadavres jusqu'au four. Quoi. C'est... Puis nous sommes restés en silence. Je regardais son visage émacié, sans barbe, presque méconnaissable. Seuls les yeux plus brillants que jamais trahissaient la fièvre. Je n'aurais pas voulu le fatiguer, mais pourtant j'aurais voulu lui dire tant de choses. Ce fut lui qui m'encouragea. Et je finis par me confesser. Ce que je ressentais, c'était la douleur et le désespoir. Je voulais vivre, moi. Ses paroles étaient profondes et simples. Il disait qu'il fallait avoir une foi très forte dans la victoire du bien. La haine n'est pas une force créatrice. Seul l'amour est créateur, murmurait-il, en serrant très fort ma main dans la sienne, toute brûlante. Ces douleurs ne nous feront pas plier, mais elles doivent nous aider toujours davantage à être forts. Elles sont nécessaires avec d'autres sacrifices pour que ceux qui resteront après nous soient heureux. Il me serrait la main toujours plus fort et ce qu'il disait de la miséricorde de Dieu me redonnait courage. C'est seulement lorsqu'il parlait de pardon des oppresseurs et de rendre le bien pour le mal que j'avais une réaction de révolte. De manière générale, Maximilien Kolb s'est montré toute sa vie un homme d'une très grande rectitude morale et d'une immense bonté. Il a donné sa vie pour quelqu'un, mais vous savez, avant de donner sa vie, il donnait son dessert. T'as aimé le dessert, c'était bon, hein, tiens, prends le mien. Hein, ce qu'il faisait pour ses frères. Et à Auschwitz, on a une scène aussi qui est très très belle, une scène magnifique hein, de la géographie. Maximilien donc a pu célébrer quelques fois la messe en secret bien sûr, mais parfois c'était pas possible. Et alors qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a fait plusieurs fois? Eh bien, il bénissait le pain de sa ration alimentaire et il en donnait des bouts aux gens. Donc en fait, vous voyez, il bénissait le pain. Il pouvait pas consacrer le pain. Il le bénissait, il le donnait. Donc, du coup, lui, il n'avait plus rien à manger. Et au-delà de son pain, eh bien, c'est lui-même qui donnait. C'est sa vie qui donnait déjà. Donc, on a un homme qui est totalement eucharistie. En donnant son pain, ses rations alimentaires à ses co-détenus, eh bien, il vit la messe à un niveau formidable. Et son dernier sacrifice, bah, c'est ça, c'est la messe. Je veux mourir à la place de cet homme. Je donne ma vie, c'est mon corps, c'est mon sang pour lui. Marie, semble-t-il, lui a communiqué l'amour de son cœur maternel. Il y avait en lui vraiment quelque chose de paternellement maternel vis-à-vis de tous ses jeunes frères qui l'entouraient, qu'il appelait à l'envi « mes enfants, mes chers fils, mes petits-enfants ». Et voilà, il y avait quelque chose d'extrêmement délicat chez lui. Les anecdotes sont innombrables. Il y a un très beau livre, un très beau petit livre qui s'appelle Maximilien Kolb, le saint d'Auschwitz de Marie Pierce, qui est un recueil des témoignages qui ont été rassemblés pour le procès de béatification. Le saint Maximilien Kolb, le saint d'Auschwitz de Marie, je crois que c'est Marie Pierce, comme la joueuse de tennis. Et ce sont que des témoignages de gens qui ont côtoyé Maximilien Kolb durant son enfance, sa jeunesse, au couvent, en Pologne, au Japon et dans les camps, dans les prisons et dans les camps, et dans le camp d'Auschwitz. Alors je vous propose de terminer en lisant une méditation magnifique sur le thème du chevalier de l'Immaculée, faite par un certain Karol Wojtyla, évêque de Cracovie. Ah bah lui, il était fan. Hein. Ah, fan de Maximilien Kolb. Vous pouvez pas trouver plus grand que Karol Wojtyla et Jean-Paul II. Alors c'est dans un autre livre qui s'appelle Jean-Paul II, Karol Wojtyla, Maximilien Kolb, patron de notre siècle difficile. C'est toutes les interventions du cardinal ou du pape sur Maximilien Kolb tout au long de son ministère. Donc comme vous le voyez, il en a parlé pas mal. Et il y a donc une méditation magnifique sur le chevalier de l'Immaculée. Et c'est avec ça que je vais vous laisser. Le chevalier de l'Immaculée, la lutte spirituelle. Tout cela reflète un contenu à la fois profond et simple. Un contenu proche de l'âme de l'homme, de l'âme du chrétien. L'homme, en effet, quand il sort de la période de l'enfance, doit se rendre compte que la vie est également une lutte. La vie de l'homme sur la terre est une bataille. Et le sens de cette lutte est très profond. Continuellement, à l'intime de chacun de nous, se livre un combat entre le bien et le mal. Aucun de nous ne peut se libérer de l'obligation d'exercer les vertus chrétiennes qu'imposa autrefois saint Paul à l'âme de tout chrétien. Aucun de nous ne peut renoncer à cet idéal par lequel l'homme conduit cette noble bataille à laquelle nous a appelé saint Paul au tout début du christianisme. Si à l'époque actuelle nous devons ambitionner quelque chose de façon particulière, si nous devons spécialement demander quelque chose pour notre génération à la Mère très sainte, si nous devons solliciter quelque chose pour notre jeunesse, c'est précisément ce noble idéalisme qui fait que l'homme combat pour des valeurs supérieures. Nous sommes submergés par les biens de consommation, par la recherche de valeurs passagères, de tout ce qui peut nous être d'un quelconque usage. L'homme se doit d'être supérieur à cela. L'homme doit être capable de désirer des biens supérieurs à ceux qu'on peut seulement utiliser. Pour cela, l'idéalisme chrétien est nécessaire. L'homme ne peut se libérer du besoin et de la nécessité de la lutte spirituelle, du combat spirituel. Il doit être prêt à l'entreprendre. Bien que les temps des chevaliers soient aujourd'hui révolus, bien qu'on ne porte plus l'épée au côté et qu'il n'y ait plus d'investiture de jeunes gens au titre de chevalier, chacun de nous doit pourtant être prêt à ceindre en quelque sorte cette épée spirituelle. Amen. Il n'est pas possible de ne pas recevoir cette investiture. Il existe d'ailleurs un sacrement qu'on reçoit durant la jeunesse et qui, selon une ancienne tradition, a été rattaché à l'investiture chevaleresque. Cela nous signifie que l'homme doit ceindre toute sa vie l'épée de l'esprit. L'âme humaine possède une capacité exceptionnelle pour combattre en faveur du bien, pour triompher du mal. Elle consiste à être apte, capable et prêt à conquérir le royaume de Dieu. Du reste, le Seigneur Jésus a dit « Le royaume de Dieu souffre violence » et en un certain sens, il y a aussi là une vérité sur le fait que les impétueux s'en emparent. Et il faut donc s'engager vers ce but, s'engager parfois jusqu'à la mort. Mes chers amis, demain, 14 août, c'est le 31e anniversaire de la mort du Père Kolb. Ce sera en outre le premier 14 août que nous vénérerons sur les autels comme bienheureux. Donc nous sommes en 1972. Demain également, j'aurai pour la première fois le privilège de pénétrer dans la cellule de la mort, au camp d'Auschwitz. Et là, dans cette cellule, dans ce terrible lieu de souffrance, d'offrir le très saint sacrifice. Parce que ce lieu de souffrance a été le lieu du grand sacrifice d'un homme, chevalier de l'Immaculé. Nous savons bien que le chevalier va sur divers champs de bataille et finalement il y en a un de ces champs de bataille sur lequel il trouve la mort. Et précisément cette cellule de la mort ici à Auschwitz, le bunker de la faim, a été l'ultime champ de bataille du chevalier de l'Immaculé. C'est là que Jésus-Christ l'a conduit, que l'a conduit le Saint-Esprit qui agit à travers les apôtres et les disciples du Christ. Et c'est là qu'il fut conduit par l'Immaculé et il y subit la mort. Ce fut une mort terrible, humiliante. Nous en connaissons la description, mais en même temps cette mort fut une splendide victoire, la victoire de l'homme rempli de l'Esprit de Dieu. L'épée de l'Esprit défila ses pires ennemis. Et le pire ennemi de l'homme est la haine. Ce fut l'ultime épreuve de sa vie, ce lieu de grande haine, ce lieu de grand mépris de l'homme. L'Immaculé l'a conduit là, lui, son chevalier, afin que sur ce champ de bataille fût mise à l'épreuve l'épée de son esprit, et là, il a remporté sa dernière victoire. Ce fut vraiment une victoire digne d'un fils de Saint François. Ce fut une vraie victoire dans la pauvreté de celui à qui n'avait même pas été laissé ses souliers troués, ses misérables vêtements. Il est mort nu. Mais il démontra que l'amour est plus puissant que la haine. Et son amour, bien qu'il pût sembler une minuscule, frêle petite flamme, se montra plus puissant que toute la machine de mort d'Auschwitz, que toute la machine de mort du camp d'extermination, que toute la machine des constructions humaines basées sur la haine et visant à détruire l'homme. L'épée de l'esprit se montra la plus forte. Et le fait que par l'action de cette épée mourut un homme fut seulement la suprême confirmation de sa noblesse, de sa sainteté, le sceau ultime que sur son âme aimante imprima, comme un baiser sur l'âme du chevalier, la dame de son cœur, l'Immaculée. Prions beaucoup pour toute l'humanité, de façon particulière pour notre peuple et notre jeunesse, afin que cette grande chevalerie spirituelle ne s'efface point, afin que ne soit pas détruite la tradition de tant de générations, l'épée de l'esprit, la puissance et la lumière de la vie humaine dans l'âme des hommes, afin qu'elle ne soit pas broyée par les modernes machines de mort du matérialisme. Prions pour la victoire de l'esprit grâce à l'intercession de cet humble vainqueur, le chevalier de l'Immaculé, le bienheureux Maximilien Marie.
Maximilien Kolb, le serviteur audacieux de Marie, vous venez de suivre une conférence du père Stéphane Faure, prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon, conférence enregistrée lors du Festival Marial de Notre-Dame-du-Lot en 2022.